Bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Thomas, de Madame Donny et puis de plusieurs élèves de troisième qui ont participé au concours national de la résistance 2021. Tout d'abord, première question, quel était le sujet traité cette année?
Le sujet cette année, c'était la résistance au début de la Seconde Guerre mondiale, donc aux alentours de 1940.
D'accord. Pourquoi avoir intégré le concours de la résistance en classe de troisième?
Pour mieux comprendre le programme en histoire de cette année de troisième, donc on peut croiser les différents regards et mieux comprendre comment était la vie de tout le monde en 1940.
Et ça permettait aussi de s'entraîner pour l'oral parce qu'on a fait plusieurs oraux pour l'oral du brevet.
D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre encore? Oui, Maxence?
Moi, j'avais vu un film sur le concours national de la résistance, alors du coup, qui m'avait bien plu, donc j'ai voulu intégrer ce concours aussi en classe de troisième.
D'accord. Combien étiez-vous pour participer à ce concours, Maëlle?
Alors, on était une grosse dizaine et on s'est réunis sur une grosse demi-heure le lundi midi et on était encadrés par nos deux professeurs d'histoire, Madame Denis et Monsieur Thomas.
Ça vous ennuyait pas de passer du temps au collège en dehors de vos cours? Oui, Gaïa?
Non, parce qu'on apprenait de nouvelles choses et c'était intéressant.
Charlotte?
C'était pas comme des cours normaux, c'était nous qui faisions les cours et on allait chercher les informations, donc c'était plus ludique que habituellement.
D'accord. Quelqu'un d'autre? Non? Alors je pense que on va passer à une prochaine question. Quel type de compétences avez-vous plus particulièrement travaillé pour préparer ce concours? Qui est-ce qui veut répondre? Elisa?
C'était plus des compétences à l'oral justement parce qu'on a fait plusieurs oraux. Enfin, chacun travaillait sur un thème et on faisait chacun un oral. On a fait ça plusieurs fois, donc je pense que c'était plus l'oral et la recherche sur Internet.
Quelqu'un d'autre? Non? Alors, on va faire une première pause musicale. Avant cette pause, je laisse la parole à Madame Denis qui va vous parler de ce que vous allez entendre.
Vous allez effectivement entendre une chanson intitulée La chanson des V. Elle a été composée en 1940 sur le thème musical de la cinquième symphonie de Beethoven qui fait pop-pop-pom. Donc vous allez reconnaître facilement. C'est une chanson brève qui est un appel, un encouragement à la résistance contre l'ennemi allemand. La lettre V, symbole de victoire, doit être écrite, chantée, sifflée partout. Elle a été diffusée par la radio anglaise, la BBC, et les paroles ont été reproduites ensuite sur des tracts qui ont été largués par avion en 1944 sur le sol français.
Donc, cette chanson, nous allons l'entendre, elle va être diffusée tout de suite. Moi, j'aimerais juste, avant d'entendre cette chanson, savoir si les élèves autour de la table connaissaient cette chanson. Qui est-ce qui voudrait prendre la parole? Gaïa?
Je l'ai entendue une fois, je crois, par ma grand-mère qui l'écoutait.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant cette chanson?
Elle était impressionnante et elle rappelait vraiment la guerre et la résistance.
D'accord. Est-ce que vous connaîtriez autour de la table, vous élèves de troisième, d'autres chansons qui évoquent la résistance ou parlent de la guerre? Personne, même des choses vues en cours ou des éléments. Oui, Maëlle?
On peut aussi avoir des chansons un peu militaires. On a par exemple la Marseillaise ou alors le chant des partisans. On aura qui était une chanson un peu militaire.
C'est bon. Eh bien, je vous remercie pour toutes vos réponses. Nous allons pouvoir maintenant écouter la chanson des V. À tout à l'heure après la pause musicale.
ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les Doryfort. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez. V.
De retour sur Radio Éphémère 97.4 avec des élèves de 3e qui ont participé au concours national de la résistance 2021. Une petite question à nouveau, qu'est-ce que ces séances vous ont apporté? Qui est-ce qui veut répondre? Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Alix.
Alors vas-y Alix.
Alors moi ces séances elles m'ont permis d'être plus à l'aise à l'oral et de prendre un peu plus confiance en moi malgré ma timidité. Et ça m'a permis aussi de comprendre mieux la résistance que j'ignorais avant les séances du CNRD.
D'accord. Quelqu'un d'autre qui voudrait apporter une précision? Charlotte?
Peut-être aussi un peu d'autonomie parce qu'on a dû apprendre entre guillemets tout seul, même si on était encadré par nos professeurs. On a dû structurer tout ce qu'on trouvait et trier les informations pour retenir que l'essentiel et pouvoir l'expliquer.
Question suivante. Si vous aviez des changements à faire ou des ajouts pour les séances, quels seraient-ils ces ajouts ou ces changements? On va commencer par Maëlle.
Moi, je mettrais plus de séances parce que je trouve que c'est assez court. On n'a pas eu le temps de faire énormément d'exposés ou de voir énormément de résistants.
D'accord, Elisa?
Peut-être qu'on puisse choisir exactement sur qui on travaille, parce que là, on choisissait comment on se déroulait l'exposé, mais on nous imposait au début la personne sur laquelle on travaillait, et ça aurait peut-être été intéressant que nous-mêmes, on fasse des recherches sur nous-mêmes, sur quelle personne on travaille.
D'accord. Et enfin, Gaïa?
Qu'on aurait eu la possibilité de discuter avec des personnes connaissant ce sujet, même si le contexte ne nous le permet pas.
Effectivement, ça aurait pu être très intéressant. Oui, Charlotte?
Aussi, moi, j'aurais bien aimé faire des séances, par exemple, au CDI, plus de la recherche, par exemple, dans des livres ou sur d'autres documents que sur l'ordinateur, parce que finalement, on était toujours avec notre binôme devant l'ordinateur.
D'accord, merci pour ces réponses. En quoi a consisté l'épreuve individuelle que vous avez dû passer? Qu'est-ce que vous avez dû faire pendant cette épreuve individuelle? Alix, oui.
Alors, tout d'abord, c'est un peu comme le brevet. On avait des études de documents qu'on devait répondre à des questions. Ça nous mettait un peu dans l'ambiance du texte qu'on devait écrire à la fin, qui était assez long et je ne me souviens plus trop le sujet. Mais on devait faire un minimum de lignes. Et on devait développer sur la résistance.
D'accord. Et ensuite, quel type de production collective avez-vous réalisé? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la production collective? Maëlle?
Alors, vu que le thème du concours cette année, c'était le début de la résistance, on a décidé de faire un journal pour illustrer le début de la résistance, avec à l'intérieur des petits exposés, des petites biographies sur des résistants qu'on a sélectionnés.
Comment vous est venue l'idée de ce journal? Qui a proposé ça? D'où c'est venu, Charlotte?
C'était l'idée de nos professeurs d'histoire qui nous ont proposé ça et on a bien accroché à l'idée, donc on a décidé de partir sur ça.
D'accord. C'est un projet un petit peu original. Est-ce que certains avaient déjà écrit des journaux, des articles de journaux auparavant, certains d'entre vous? Non? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire dans ce journal?
Respecter la formation des pages, pouvoir mettre tout le texte dedans avec la bonne police et la bonne taille.
D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont apprécier faire ce journal et pourquoi dedans? Est-ce que quelqu'un... Gaïa aussi?
Oui, c'était intéressant, mais c'était un travail assez compliqué. mais le résultat est très satisfaisant.
Effectivement, j'aperçois le journal et on a une présentation, on a un document avec des images de résistants. On a le gros titre en pleine page à la une. On a une typographie un petit peu ancienne, type typographie de machine à écrire. On a un sommaire. Enfin, c'est un très, très bel objet. Est-ce que ce journal, il est consultable quelque part ? Oui, Maëlle ?
Non, on l'a fait juste pour nous. C'était notre sujet de présentation collective. On ne pourra pas le trouver autre part qu'entre nos mains.
D'accord, je vois que Madame Denis a un commentaire à faire.
Le journal sera déposé au CDI et sera consultable ensuite par les élèves.
Donc je conseille à tous les futurs élèves de 3e de pouvoir d'aller faire un tour au CDI pour pouvoir consulter ce journal. On va faire une deuxième pause musicale. Comme tout à l'heure, je laisse la parole à Madame Denis.
Nous allons écouter un poème de Robert Desnos qui se nomme « Ce cœur qui haïssait la guerre » qui a été écrit en 1943. Desnos était un homme de lettres, un journaliste, un poète. Il s'est engagé dans la résistance au sein du réseau Agir. Il fabriquait notamment de faux papiers pour les Juifs et les résistants. Il a été arrêté en 1944 par la Gestapo et déporté dans plusieurs camps. Il meurt dans le camp de Térésine, en Tchécoslovaquie, des suites du typhus en 1945. Dans ce poème, Desnos fait état de sa situation personnelle. Il était pacifiste, mais voilà, l'occupation allemande, le nazisme, le pousse à se révolter, à se battre au nom de la liberté. Et il invite les Français à faire de même. C'est un magnifique poème d'un homme engagé.
Ce cœur qui haïssait la guerre. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.
Vous êtes toujours sur Radio Éphémère 97.4. Nous allons continuer à parler du concours de la résistance et vous allez dès maintenant entendre le résultat des recherches des élèves à propos de certains résistants. Et nous commençons par la famille Goupille. C'est à toi, Axel.
La famille Goupille, c'était une famille française qui habitait près de la ligne de débarcation. Et leur but était de faire passer des Juifs avec des papiers pour qu'ils aillent en zone libre en 1940. Donc ils ont commencé par faire passer des Juifs, des faux papiers, et ils ont ensuite organisé des parachutages d'armes donc, dans la zone occupée. Donc ils ont été classés juste parmi les nations par l'État d'Israël.
Merci beaucoup. Il va maintenant être question de Rose Vallant.
Rose Vallant était conservatrice au Musée du Jeu de Paume à Paris. En 1940, à la décision du directeur des musées nationaux Jacques Jaujard. Elle est officiellement nommée attachée de conservation au musée du Jeu de Paume. Elle est en fait chargée d'espionner l'action des Allemands nazis qui ont réquisitionné le musée pour y stocker des œuvres d'art pillées à des familles juives. Pendant 4 ans, elle garde la trace de la destination et de la provenance des œuvres d'art qui transitent par le musée. Elle donne des informations essentielles à la résistance sur les trains qui transportent ces œuvres d'art pour qu'elles y soient épargnées.
Merci beaucoup, Louis. Nous allons entendre parler de Lucie Aubrac.
Lucie Aubrac est née en 1912 à Paris et elle poursuit des études supérieures d'histoire. C'est lors des Jeux Olympiques en 1936 qu'elle se rend compte de la montée du nazisme. Elle va épouser Raymond Aubrac et les deux vont se relancer dans la résistance dès le début de la guerre. Ils vont co-créer le journal Libération et font différentes actions comme du sabotage, de la presse clandestine et de la distribution de tracts.
Elle fabrique de faux papiers et organise le passage de résistants vers la zone libre. Après que Raymond se soit fait arrêter, elle le libère. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle témoignera auprès des enfants et elle mourra en 2007.
Merci beaucoup les filles pour toutes ces informations. Quels ont été les résultats de ce concours ? Vas-y Alix.
Alors on a eu seulement les résultats individuels pour ce qui nous concerne. J'ai eu le premier prix. Et pour les résultats collectifs, on n'a pas eu les résultats. On sait juste qu'on n'a pas été parmi les trois premiers.
Tu as le premier prix ?
Oui.
La classe ! Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a annoncé que tu avais le premier prix ?
Au début, j'ai pas trop cru, mais j'étais aussi très fière de moi. Et je pensais pas l'avoir, mais je suis contente.
Qu'est-ce que ça induit que tu aies le premier prix ? Quelles vont être les conséquences d'avoir eu ce premier prix ? Est-ce que tu sais ?
Pas vraiment.
D'accord, donc ce sera une surprise.
Plutôt oui.
En tout cas, félicitations pour ce premier prix.
Merci beaucoup.
Quel est le sujet à venir ? Monsieur Thomas ?
Ah oui, bonjour. Donc pour l'année prochaine, c'est un sujet sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sur la fin du Troisième Reich, sur la libération. Donc c'est vraiment l'extrême fin de la guerre. Donc là, c'est une période tout à fait différente, puisque cette année, on a travaillé sur les premiers résistants. Alors que là, on va justement travailler sur la fin de la guerre, sur l'action de la résistance dans les dernières opérations, on va dire, de libération. Donc c'est un sujet encore beaucoup plus large, hein, beaucoup plus large que celui de cette année. Donc par contre, il va falloir qu'on réfléchisse sur justement aussi concevoir une œuvre collective qui soit très différente. Je ne pense pas qu'on va de nouveau faire un journal, mais l'idée d'une émission radio, là, serait intéressante, justement, hein, pour pouvoir... Eh bien, construire une œuvre collective différente, voilà, l'idée de la radio me séduit bien. Voilà.
C'est effectivement une très belle expérience. Pour terminer, quel message, vous, les élèves de 3e, vous pourriez transmettre aux futurs 3e pour qu'ils s'inscrivent à ce concours ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Ah, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, Iris.
Je leur conseille de s'inscrire au concours parce qu'on a appris beaucoup de choses, que c'était intéressant et que c'était amusant.
D'accord. Héloïse ?
Je leur conseille de s'inscrire au concours parce qu'il y avait une bonne ambiance et on a appris beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Gaëlle ?
Dans un certain sens, en faisant ce concours, on peut faire vivre la mémoire des résistants et donc c'est une bonne chose pour eux.
Je pense aussi que c'est très bien. Quelqu'un d'autre ou ce sera tout ?
Juste, tu parles de l'année prochaine, et dans le passé, on est en 2021, en l'an 2000, j'avais participé, je ne vais pas dire en quelle classe j'étais en l'an 2000, hein, mais en 2000, j'avais participé au concours de la résistance, ça existait, alors je ne sais pas depuis combien de temps il existe à l'époque, peut-être que c'était tout nouveau, il y a quelqu'un qui...
Il a été créé en 1961.
Ah bah donc en fait il avait déjà quelques années derrière lui et j'avais participé en 2000 avec mon collège.
Eh bien voilà, un concours, tu en avais pensé quoi ?
Alors, dans le collège où j'étais, c'était un des piliers de dans l'année scolaire. Le concours de la résistance, c'est quelque chose de très fort. Je crois que, alors individuellement, je ne sais plus déjà s'il y avait quelque chose d'individuel. J'ai plus souvenir. Par contre, je sais que collectivement, ma classe, on avait obtenu un prix parce qu'on avait gagné. On avait fait une sortie scolaire qui était en fait le prix qu'on avait eu. Je sais plus si c'était au niveau national, régional, départemental, mais on avait fini dans les trois premiers de quelque chose, quoi, et on avait fait une sortie scolaire liée à ça, ouais. Mais c'était collectif.
D'accord. Un petit peu différent, effectivement. Nous allons donc clore cette petite émission autour du concours national de la résistance. Pour lancer la chanson de fin, je vais laisser la parole à Madame Denis. Madame Denis, c'est à vous.
Alors, la chanson de fin sera le chant des partisans. La musique a été composée en 1941 par Anna Marley, qui s'engagea elle-même dans la résistance, puisqu'elle fut cantinière dans les forces françaises libres organisées depuis le Royaume-Uni. Et en 1943, l'écrivain français Joseph Kessel écrit des paroles sur cette musique qui rendent hommage à tous ces hommes et femmes anonymes qui, au péril de leur vie, sont entrés en résistance.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Merci à tous et encore félicitations pour vos très bons résultats. Ça y est, chers auditeurs, la matinée est malheureusement terminée. Le temps passe vite en votre compagnie. Avant de faire la pause déjeuner, nous vous demandons encore quelques minutes d'attention pour accueillir Romain et son quiz sur tout ce qu'il a dit cette semaine. À vous de jouer.
Bonjour, je suis Romain de Radio Éphémère 97.4. Vous m'avez sûrement entendu tous les midis faire le pourquoi des choses. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un quiz sur ces chroniques. Alors, première question. Que représente l'oignon dans l'expression suivante, un rang d'oignon ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Oui ?
Le nombre de couches qu'on l'a laissé grandir ?
Non, c'est la mauvaise réponse. Alors, je vais proposer des réponses. Est-ce que ce soit un légume, un oiseau ou une personne? Oui.
Je pense que c'est une personne.
Oui, c'est la bonne réponse. Deuxième question.
Romain, tu te souviens ce que ça désigne exactement? Parce que j'avais été très surpris par le sens de cette expression quand tu nous l'as expliqué. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est une personne, mais qui est-ce que ça désigne?
Je crois que c'est un baron d'oignon.
Oui. Moi, je te le demande parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de la réponse. Hein. Je me souviens bien de ton explication.
Artus de la Fontaine Solaro, je crois.
En fait, c'est un monsieur qui avait pour charge d'organiser les gens dans les cérémonies officielles, selon leur rang social. Et donc, il les classait bien par rang. Et c'est pour ça qu'on disait que c'était le rang d'oignon. Ça veut dire que c'est bien mis, bien organisé, bien dans l'ordre. Ça n'a rien à voir avec le légume.
Alors, passons à la deuxième question. Quel est le roi sous lequel l'oignon exerçait d'importantes fonctions?
Alors, on voit que Thibaut a envie de participer et de répondre. Thibaut, est-ce que tu sais?
Bonjour, oui, je pense savoir. Pour moi, c'est Henri II.
Oui, c'est la bonne réponse. Alors, passons à la troisième question. Comment se nommait le ruban qui se porte autour du cou et qui, avec le temps, s'est altéré en cravate? Non? Est-ce, par exemple, le ruban croate? Le ruban borate ou le ruban savate?
Un indice, c'est un pays dont le maillot est à damier blanc et rouge.
Alors, quelqu'un a-t-il une idée? Ah, je vois que Raphaël.
Le ruban croate?
Oui, c'est la bonne réponse. Alors, quatrième question. De quoi Pan, qui est le fils d'Hermès, est-il le dieu?
Ah, on a des passionnés de mythologie. Vas-y, Axel.
Je crois que Pan est le dieu de la nature.
Oui, entre autres, oui. Des pâturages, des moutons et des chèvres. Cinquième question. Au Moyen-Âge, comment représentait-on Pan?
Alors, vous savez de quoi c'est le dieu, mais comment est-ce qu'il était représenté? Gaïa?
Il était représenté par une créature mi-humaine, mi-bouc, tenant une flûte de Pan dans ses mains.
Oui, avec d'ailleurs des cornes sur la tête. Sixième question, quel est le nom du dieu qui a créé Pandore?
On a deux possibilités de réponse, Axel.
C'est Héphaïstos?
Non.
En fait, moi, je crois que si. Oui. Je crois que si. Ah, Thibaut, tu veux apporter une précision. Viens, Thibaut. Alors, Thibaut doit se déplacer, c'est pour ça que ça prend un peu de temps.
Je ne sais pas si j'inverse, mais il me semble que qu'Héphaïstos est le nom de romain, mais nom grec, désolé, on fait c'est le nom grec, et c'est Vulcan en nom romain.
Exactement, oui. Donc en fait, tu avais raison.
Oui. Et de quoi était-il le dieu?
Ah, est-ce que quelqu'un sait de quoi était le dieu? Ah, Maxence. Alors Maxence aussi doit se déplacer. Oui, Maxence.
Le dieu forgeron, il me semble.
Oui, c'est ça. Septième question. Le jour du mariage de Pandore, qu'est-ce que les dieux lui offrirent?
Est-ce que vous savez, Ken?
Ce serait pas la boîte de Pandore?
Oui, c'est ça. Qui a prononcé la célèbre phrase « Eureka, Eureka » ?
Ah, on a tous entendu cette phrase à un moment et à un autre. « Eureka, Eureka !» Qui a prononcé cette phrase ? Ken ?
Einstein ?
Non.
Ah, c'est bien tenté. C'est et quelqu'un de très connu aussi.
Il l'a peut-être prononcé une fois dans sa vie.
Hein. Ah. Mel ?
Archimède ?
Oui, c'est la bonne réponse. Quelle était sa nationalité, d'ailleurs?
Ah, la nationalité d'Archimède. Gaïa?
Je crois qu'il était grec.
Alors, Romain, qu'est-ce que t'en dis?
Oui, c'est la bonne réponse.
Super.
Quel métier exerçait-il? Il y a deux métiers.
Est-ce que quelqu'un sait? Axel?
Mathématicien et philosophe, je crois.
Philosophe, c'est pas vraiment ça.
Mais mathématicien, c'est bon, hein. Ouais. Quelqu'un d'autre, Charlotte ?
Physicien.
Oui, c'est la bonne réponse.
Bravo.
Et enfin, la 11e question. Quelle est l'expression qui signifie que l'on se trouve devant un problème insoluble ?
Il y a beaucoup d'expressions qui existent. Peut-être, Romain, pourrais-tu en donner plusieurs ?
Il y en a qui ne passent pas à l'antenne quand je suis devant un problème insoluble. J'utilise des expressions qu'on ne peut pas dire ici.
Alors, les propositions sont arrondir les angles, la quadrature du cercle ou prendre la tangente.
Alors, à votre avis, laquelle de ces expressions veut dire un problème insoluble ? Ah, Thibaut veut répondre ? Viens, Thibaut.
Il me semble que c'est la quadrature du cercle.
Eh oui, c'est la bonne réponse. Nous nous retrouvons avec Ken.
Merci, cher auditeur, d'être resté en compagnie de Radio Éphémère sur 97.4, en direct du studio du Collège Jules Romain, tout au long de cette belle matinée. Nous vous invitons à reprendre votre écoute à partir de 13h30. Nous allons déjeuner. Bon appétit à tous. Nous vous laissons aussi avec les blagues de Romain.
Un jour, Dieu dit à Hugo de bosser et Hugo bosse. Un jour, Dieu dit à Jack de sonner et Jack sonne. Monsieur et Madame Javel ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Aude, Aude Javel. Monsieur et Madame, pas que j'arrive pour partir, ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Nathan, n'attends pas que j'arrive pour partir. Un jour, Dieu dit au Rex de sonner. Et Rex sonna. Un jour, Dieu interdit aux gendarmes d'être tristes. Et la gendarmerie.